Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face et au programme ce matin pour la dernière émission de la saison. Quelques bons camarades, de la bonne chair, des livres et quelques destinations dans l'un des plus beaux pays au monde, à savoir la France. Et également le philosophe le plus chic de France Inter, Thibaut de Saint-Maurice. Quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien Ali, croyez-le ou non, ce matin on s'intéresse à votre émission, Grand Bien vous fasse.
Bon, écoutez, ça promet. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour.
La dame du vendredi qui met son grain de sel et de poivre. Alors il paraît que vous allez défendre bec et ongle la vraie salade niçoise, le combat de toute une vie.
Oui, absolument. Le premier qui me parle de haricots verts prend ma main dans la figure.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
La chroniqueuse qui ne supporte pas qu'on la vous voie, sinon elle met du riz
encore
dans la salade niçoise. Attention Guillemette.
Non mais c'est encore pire, ça on n'en parle même pas.
Quoi de neuf dans votre dernière chronique de la saison ?
De la saison, évidemment. Eh ben, on va parler des devoirs de vacances et on va se demander si le devoir conjugal, la sexualité, en fait partie ou si on fait une pause.
Et vous racontez-nous les plats, les livres, les coins de France que vous nous conseillez au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Et bonjour à toute la bande, bonjour tout le monde.
Bonjour,
bonjour Ali. Bonjour Ali.
J'ai l'impression d'être dans les drôles de dames. Bonjour Christina
Pelléduel.
Bonjour Christina Pelléduel.
Bonjour Ali.
Alias Lady Crumble dans certains milieux spécialisés.
Et à propos de
milieux, nos auditeurs ont l'esprit moins tordu que nos petits camarades et ils rêvent de déguster votre crumble aux fruits rouges.
Oh bah ils sont gentils. je suis une spécialiste du crumble aux fruits rouges.
C'est pour ça que vous êtes voilà. Vous êtes la co-autrice. Vous êtes la co-autrice de la revue Grand Bien vous fasse.
C'est elle qui a l'esprit plus mal placé.
Vous êtes la co-autrice de la revue Grand Bien vous fasse, que vous pouvez réclamer à corps et à cri à votre marchand de journaux, avec une consacrée à la puissance des liens. Et ça n'a rien à voir avec le milieu spécialisé. Quel est votre plus beau souvenir d'été, Christina Pelléduel ?
Oh, j'en ai tellement qu'il est difficile de choisir, mais j'ai des souvenirs d'été absolument merveilleux en Corse. D'ailleurs, je vous en dirai un mot un peu plus tard, peut-être. Mais la Corse, c'était ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, hélas, je pleure intérieurement. Mais la Corse a vraiment été des étés. Je ne sais pas, c'est une espèce de parangon de l'été. C'est la beauté de la Corse, c'est l'eau chaude de la Méditerranée, les plages inouïes, la montagne, les petits cafés, les places avec les platanes, le cri des hirondelles. Voilà, la Corse, c'est...
Des souvenirs qui remonte à quelle époque ?
Oh là, antédiluvien, je n'ose pas vous dire, non mais je rêve d'y retourner.
Bonjour Gavin Scrementruise.
Bonjour.
Honorable secrétaire général du Guide du Routard, romancier, dernier ouvrage paru, La Divine Comédie de nos vies. Gavin, ce que j'imagine toujours en cardinal épicurien à la cour du régent, votre meilleur souvenir de vacances l'été ?
Été 83, le Morbihan, on s'est levé très très tôt avec les parents pour partir au petit matin à la fraîche, on a rempli la voiture, j'étais tout serré derrière, et puis je suis au bord de la plage, je regarde la mer et j'ai appris à nager pendant toute l'année. C'est la première fois que je vais faire mes grands pas dans la mer. C'est divin.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du 1 Hebdo avec à la une cette semaine.
L'ARN peut-il tout guérir ? On se demande si maintenant, grâce au vaccin, on va pouvoir guérir toutes les maladies qu'on avait jusque-là qui restaient difficiles à guérir.
Alors vous, je vous imagine dans un film en sosie du comédien François Civil.
Je prends. Écoutez, on l'a déjà dit à une caisse de supermarché et elle est très déçue, la caissière, quand je dis non, je suis désolé, c'est pas bon.
C'est vrai, hein. C'est vrai, j'atteste. En tant que journaliste cinéma, j'atteste. Vous envoyez vos messages à Julien Bisson.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Le chef qui attend avec impatience l'ouverture de son restaurant, le Père Joseph à Ruelle Malmaison, encore en travaux. Votre souvenir estival inaltérable ?
Alors moi, je suis pas très souvenir. J'aime bien ceux que je vais me porter.
Très souvenir.
Non, mais c'est en réalité j'aime bien. Voilà, j'anticipe mes vacances là en Espagne sur l'île d'Ibiza avec toute ma famille et je pense que ça va être mon plus beau souvenir de vacances.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors en fait, c'est un souvenir un peu paradoxal. Moi, j'ai eu trois enfants très rapprochés.
Et je me souviens du premier été avec donc l'arrivée des jumeaux. Et on avait une voiture qui ressemblait plus tellement à une voiture parce qu'il y avait deux lits parapluies, une poussette, une sorte de baignoire en plastique, etc. Et ce qui était génial, c'est que enfin on avait pas mal de vacances ensemble puisqu'il y avait les congés maternité, paternité, tout ça. Enfin bon, on avait 5 semaines de vacances. Et en fait, on avait juste pas bien calculé le coup puisque c'était un truc où chaque semaine on va dans un endroit différent. On va voir les parents, les beaux-parents, les amis, les cousins, etc. Et donc vider et remplir 5 fois cette voiture avec les 3 sièges auto à l'arrière, etc. En fait, c'était pas du tout une bonne idée, mais c'était très drôle.
Guillemette.
Non, j'adore cette anecdote. Alors c'est peut-être pour ça, Ali, quand vous nous avez demandé de réfléchir à nos vacances, je crois que moi j'ai enlevé d'emblée les vacances avec mes enfants. Et j'ai pensé à mes vacances quand j'étais enfant. Mais je crois que c'est toujours cette hésitation. On se demande, est-ce qu'on va parler, est-ce que notre meilleur été, c'est celui qu'on a eu quand on était parents ou quand on était enfant? Alors j'ai choisi ces étés où avec ma maman, nous habitions Nice. Et elle devait aller me déposer, parce qu'elle travaillait beaucoup, donc elle pouvait pas me garder pendant les vacances, chez mon oncle dans le sud-ouest, dans un tout petit village du Lauragais. Mais elle en profitait, on faisait quasiment une semaine où on traversait cette partie de la France en faisant des étapes. Elle ne me prévenait jamais où on allait, mais on passait de petits hôtels en merveilleux restaurants. C'est comme ça que je me suis retrouvée à manger de la pintade aux pêches chez Pic à Valence. Et c'était comme ça, et on avait une toute petite 104 verte. Maman conduisait très vite, j'avais un petit peu peur. Et chaque fois qu'on descendait dans un hôtel, je m'apercevais que son bras gauche, celui qui était du côté du soleil où on conduit, où on met le coude sur la portière, était de plus en plus bronzé. Je crois que c'est ça mon souvenir. Une maman très bronzée du côté gauche et beaucoup moins du côté droit.
Très beau souvenir. N'hésitez pas à nous envoyer sur l'appli France Inter vos plus beaux étés. Maya Mazorette.
Moi, je suis dans la même équipe que Grégory Cohen, même si on ne part pas en vacances ensemble.
Pas encore.
C'est l'été qui vient, qui va être le plus formidable, évidemment. Donc, ni été de parents, ni d'enfants, en l'occurrence, mais les étés d'amoureuses, c'est les meilleurs, en fait. C'est quand on part avec quelqu'un qu'on aime.
Alors, j'aimerais qu'on commence avec quelques livres à déguster cet été. Gavins, vous avez choisi un roman japonais, d'Hiro Arikawa, et c'est publié en poche chez Actes Sud, et ça s'appelle « Les mémoires d'un chat », c'est traduit par Jean-Louis de la Couronne.
Ah ouais, j'ai répondu aux injonctions de Ali Rebelli qui voulait partir au Japon cet été. À travers ce livre de poche pour 8,70€, je vous propose un voyage au Japon. En effet, c'est l'histoire d'un chat. Un chat qui parle, jusque-là tout va bien, mais notre chat a un accident de voiture et se retrouve adopté par Satoru. Satoru le surnomme Nana parce que sa queue forme un 7, et 7 en japonais ça se dit Nana. Un jour, Satoru doit se séparer de Nana et il va lui chercher un nouveau maître. Satoru ne veut pas confier Nana à n'importe qui quand même, et là c'est le départ d'un road trip à travers tout le Japon. On va... Satoru et Nana, c'est les aventures de Satoru et Nana qui se rendent chez les amis d'enfance et les amis tout court de Satoru. Pas facile d'adopter un chat, mais c'est l'idéal pour parler du temps qui passe, des événements de la jeunesse de Satoru, de découvrir un être touchant. On découvre le jeune Satoru, on découvre aussi plein de scènes cocasses. C'est un roman qui peut paraître léger, on appelle ça les light novels, mais ou ça pourrait être un roman pour les young adults, mais faire parler un chat, c'est quand même assez surprenant. Et en creux, Nana et les amis de Satoru dessinent un portrait vraiment sans phare du Japon. C'est parfait pour se promener cet été au Japon sans se ruiner.
Les mémoires d'un chat d'Hiro Arikawa, et c'est publié en poche chez Babelsberg. J'essaye de prendre l'accent un peu japonais, mais bon. C'est peut-être gênant pour les Japonais qui nous écoutent. Mais bon. Christina, vous avez choisi une odyssée. Sous-titré « Un père, un fils, une épopée » de l'américain Daniel Mendelsohn. Et c'est publié chez Flammarion. Daniel Mendelsohn, à qui l'on doit un immense livre, Les Disparus.
Oui, Les Disparus, prix Médicis étranger 2007. Daniel Mendelsohn, c'est vraiment un auteur très important. Il est professeur de littérature classique à Bard College. Et il est chroniqueur aussi à la New York Review of Books. C'est dire si c'est quelqu'un d'important. Alors, il raconte dans ce livre comment son père, à l'âge de 81 ans, a décidé soudainement, parce qu'il est un ancien élève frustré de littérature classique, a décidé de venir suivre le séminaire que son fils va donner sur l'Odyssée. Il va se passer des tas de choses pendant ce séminaire, mais surtout, il décide, à l'occasion de ce cours, de partir ensemble tous les deux faire une croisière sur les pas d'Ulysse en Méditerranée. Et ce qui est merveilleux dans ce livre, c'est la manière dont Daniel Mendelsohn mélange l'érudition la plus extraordinaire à propos de l'Odyssée. Il raconte ce qu'est l'Odyssée, il la décrit, il l'analyse, il la dépouille. Et aussi le récit qu'il fait de sa relation avec son père. Et donc, de l'un à l'autre, il mêle l'histoire de Télémaque et d'Ulysse et sa propre histoire avec son père et comment, au cours de cette croisière, ils vont pouvoir, et l'un et l'autre, renouer un dialogue qui, peut-être, avait été un peu abîmé par le temps, par la vie, tout bêtement. Et c'est vraiment un livre extrêmement tendre, savant, intelligent et drôle, c'est plein d'humour. Les réactions du père sont parfois, mais totalement hilarantes. Il est parfois complètement à côté de la plaque. Il pose des questions inouïes sur l'Odyssée auxquelles le fils répond. Et ce qui est très émouvant, c'est que le père de Daniel est mort l'année qui a suivi et que ça, c'est la fin. C'est pas la fin du livre, mais c'est une espèce de point final, ils n'ont pas réussi au cours de cette croisière à aller jusqu'à Ithaque. Ils se sont arrêtés avant d'accoster à Ithaque.
Gavins, je partage complètement ton avis, Christina. Et quand j'ai lu ce livre, qui est magnifique, j'ai fait une chose, j'ai pris des billets pour partir en Grèce. Ça m'a donné tout de suite envie et je suis parti, c'était il y a 2 ans. J'ai adoré ce livre, c'est magnifique.
Et pour cet été, Christina, vous conseille donc une Odyssée de Daniel Mendelsohn et c'est publié chez Flammarion. Alors vous, Julien, vous avez choisi un anti-livre de voyage, Le Poisson Scorpion de Nicolas Bouvier, disponible en poche chez Folio.
Oui, parce que comme on ne peut pas vraiment voyager en ce moment, en tout cas pas aussi librement qu'on souhaiterait, je me suis dit que j'allais vous proposer le récit de voyage d'un homme qui ne peut pas bouger. Alors même que Nicolas Bouvier, c'est le grand écrivain voyageur par excellence. C'est l'homme qui, avec l'usage du monde, a donné des idées longues à des générations de baroudeurs décidés à partir vers l'Est comme lui, avec l'audace comme seul bagage. Mais dans Le Poisson Scorpion, là, il raconte ses quelques mois passés dans ce qu'on appelait encore à l'époque l'île de Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka, quelques mois où il est cloué au lit par la fièvre, la chaleur et la solitude. Il faut bien voir qu'à ce moment-là, ça fait 2 ans qu'il est parti de sa Suisse natale, qu'il a bourlingué à travers l'Asie, il a les semelles qui collent aux cailloux, la tête bourrée d'images et de souvenirs. Sauf qu'à Ceylan, il est atteint par le paludisme, il est atteint par la langueur, il est atteint par les hallucinations. Et il découvre une autre façon de voyager, par l'immobilité, l'introspection, la plongée au fond de soi. C'est à la fois l'anti-récit de voyage et en même temps la quintessence de ce qu'est peut être réellement le déplacement. Nicolas Bouvier y écrit cette phrase que Gavins ne démentira pas. On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore et vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. Et ben c'est à peu près comme ça qu'on sort de la lecture de ce livre, à peu près dans le même état. On est ébouriffé par sa lucidité, par sa sagesse et surtout par son style absolument incroyable. Nicolas Bouvier, c'est quelqu'un qui sait voyager, mais c'est encore plus quelqu'un qui sait écrire. Et Le Poisson Scorpion, c'est l'un de ses plus beaux livres.
Gavins, qui est aussi intéressé par le croissant qu'il déguste que par votre conseil.
Le pain au chocolat. Je partage complètement, la serviette est limée.
Le Poisson Scorpion de Nicolas Bouvier, c'est le choix de Julien Bisson. Et vous pouvez évidemment retrouver tous ses conseils sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Guillemette, vous avez choisi Un bref instant de splendeur d'Océan Vuong et c'est publié chez Gallimard.
Oui, alors c'est l'histoire d'un livre qu'on m'a offert. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, ce genre de choses. On vous offre un livre, vous commencez à le lire. Et c'est tellement puissant qu'en fait, vous avez commencé à le lire dans le métro ou comme ça rapidement avant de vous coucher. Et puis, vous apercevez que non, que vous le sentez, ce livre, il est trop puissant. Il va falloir que vous le mettiez de côté et que vous consacriez un moment tout particulier à lui. Donc en fait, j'en ai lu que la moitié, je vais être honnête avec vous. Et je me suis dit,
le
reste, ce sera cet été, ce sera un endroit que j'aurais choisi sous un tilleul. Mais de toute façon, je sais, parce que j'ai tellement été mais amoureuse de ce livre que je suis allée voir, bêtement, ailleurs, dans les critiques de mes respectés collègues critiques de littérature, et tout le monde dit c'est un chef-d'œuvre. Donc je ne m'étais pas trompée, n'est-ce pas, Christina?
Je confirme, c'est vraiment un grand livre.
Vous savez, c'est quand un livre vous kidnappe par son style, qu'une boule d'émotion immédiatement s'installe dans votre gorge et ne vous quitte jamais. Donc c'est un petit prodige de la littérature qui ce livre est une lettre à sa mère vietnamienne. Lui est installé aux États-Unis et c'est une lettre à la fois d'amour et de tentative de dialogue avec elle qui n'a jamais bien parlé anglais depuis qu'ils étaient installés, alors qu'il était enfant, aux États-Unis. Juste une phrase pour le style. C'est le tout début, donc je ne vous mens pas. C'est le moment où je me suis dit, oh là là, mince, ceci est un chef-d'œuvre. Chère maman, j'écris pour me rapprocher de toi. Même si chaque mot sur la page m'éloigne davantage de là où tu es. J'écris pour revenir au jour où, sur cette terre de repos de Virginie, tu as fixé, horrifié, le chevreuil empaillé suspendu au-dessus du distributeur de soda à côté des toilettes, tandis que l'ombre de ces bois s'étendait sur ton visage. Dans la voiture, tu n'arrêtais pas de secouer la tête. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ils ne voient pas que c'est un cadavre. Un cadavre, ça doit s'en aller. Pas rester coincé comme ça, pour toujours. Tout le reste, c'est ça, c'est de l'amour, c'est du sensuel, c'est extraordinaire, c'est une espèce de puits à souvenirs avec un style. Il déconstruit le roman familial, je n'ai jamais lu un truc pareil.
Christina ?
Oui, c'est un style unique, c'est un jeune auteur, il est très jeune, hein, il a écrit ça, il avait, je sais pas, à peine une vingtaine d'années. C'est un jeune prodige et je pense qu'on va en entendre parler beaucoup dans les années qui viennent.
Julien ? Oui, c'est en effet l'un des livres les plus puissants qui, a été paru, oui. qui sont parus cette année. Et mention spéciale à la traductrice, Marguerite Capel, qui a fait un travail assez formidable sur ce livre.
Et à l'éditrice.
Un bref instant de splendeur d'Océan Vuong chez Gallimard et c'est traduit par Marguerite Capel. Maya, pourquoi avoir choisi Les Petits Garçons de Théodore Bourdeau, romancier et producteur de l'émission Quotidien? C'est un ouvrage sorti chez Stock en 2019.
Oui, au début je l'ai lu parce que c'était un collègue de travail en me disant je suis un peu corporate, je lis ce que mes collègues font. Et en fait, le bouquin m'a accompagnée toute l'année, donc c'était vraiment une super agréable surprise. Aussi parce que même si c'est la tendresse et pas particulièrement sur la sexualité, c'est des portraits d'hommes comme on n'en lit jamais. Du coup, c'est assez transgressif parce que c'est des amitiés masculines. Alors que souvent, finalement, c'est des choses qu'on passe un peu sous silence, qui appartiennent un peu au féminin. Et c'est du coup un espèce de dévoilement que ce que c'est que grandir en tant qu'homme et l'impossibilité de grandir en tant qu'homme qui m'a énormément touchée, énormément nourrie. C'est super bien écrit. Donc, choix corporate, mais coup de cœur.
Gavin, ah oui, j'ai adoré les deux garçons qui se connaissent, qui sont amis et qui grandissent. On les voit évoluer comme ça dans le temps. Il y en a un qui est plus attiré par la politique, etc. C'est hyper fort. C'est vraiment, c'est très fin. C'est très fin. Oui. C'est très bien écrit.
Très précis.
Les petits garçons de Théodore Bourdeau. C'est publié chez Stock et c'est le choix de Maya. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali, bonjour à toute
l'équipe. Surprise, vous, un vendredi, vous êtes médecin et romancier, chroniqueur dans cette émission. Dernier roman paru, Celle qui l'attendait, publié chez Fayard. Quel livre conseillez-vous à nos auditeurs cet été ?
Eh bien écoutez, avant de partir en visite sur mon vélo, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Le silence selon Manon, de Benjamin Fogel. C'est paru chez un excellent éditeur qui est Rivage. Alors c'est un roman qui est choral, un peu troublant, très punk, vraiment très contemporain, et qui aborde la question du harcèlement en ligne, celle des mouvements. Alors vous savez, les mouvements masculinistes qu'on appelle les incels. Alors vous savez, les célibataires involontaires qui vouent aux femmes un ressentiment, une haine un peu féroce, car ils les jugent responsables de leur solitude. Alors je vous promets, Alice, c'est abordé frontalement, mais c'est pas plombant du tout. Les personnages sont complexes et attachants, l'intrigue elle est bien ficelée. Ça parle aussi d'amour, de tendresse, d'humanité. C'est hyper moderne et c'est très, très, très rock'n'roll. Alors, le fait est que l'auteur est passionné de musique, puisque Benjamin Fogel est directeur de Playlist Society, qui est une maison d'édition spécialisée dans le cinéma et la musique. C'est addictif, on tourne les pages, on vibre, on a peur. Franchement, si vous aimez le roman social moderne, à mi-chemin entre le thriller et la belle histoire où les êtres se heurtent, se confrontent, se blessent, se réparent, c'est fait pour vous.
Le silence selon Manon de Benjamin Fogel chez Rivage. C'était juste pour faire un petit coucou, Baptiste, parce qu'on ne s'est pas vu lundi. Et on vous retrouve bien évidemment à la rentrée pour de nouvelles chroniques.
Ouais, juste. Je vous embrasse tous et toutes.
Et souvent émouvante. Bonnes vacances, Baptiste.
Merci.
Thibault, alors vous avez choisi un classique du 19e siècle, Au bonheur des dames de Zola.
Ouais,
tout
choix
simplement.
Choix descriptif. Non, mais en fait, c'est un exemple, mais c'est vrai que je trouve que l'été, c'est aussi le moment de retrouver dans la bibliothèque de la maison où on va le livre de poche un peu écorné, peut-être lu par la génération précédente. Et moi, c'est des souvenirs que j'ai de lecture d'été, et donc c'est vrai que je conseille ça, c'est aller puiser dans la bibliothèque de la maison où vous passez, même une maison de location, souvent il y a des bouquins, aller puiser ce livre-là, et il se trouve que c'était, voilà, moi c'est comme ça que j'ai lu aussi Le Bonheur des Dames, qui en tant que tel est un excellent roman, donc l'histoire de Denise, une jeune vendeuse provinciale qui arrive à Paris, dans ce Paris
tout plein de la nouveauté de ces grands magasins en train de se construire. C'est la frénésie de l'achat, de la consommation. Et c'est sa rencontre avec Octave Mouret, donc le fondateur et le directeur de ce Bonheur des Dames, grand magasin. Évidemment, voilà, l'intrigue est assez classique. Hein. Cette petite provinciale va finalement se révéler être la jeune fille, la jeune femme bonne au sens moral du terme et qui va renverser un petit peu l'ordre des choses. Pas de spoiler alerte. Et donc il y a ce plaisir de retrouver cette langue aussi, c'est vrai, très classique hein, de Zola. Certains parfois la trouvent un petit peu lourde, parfois un peu appuyée dans ses métaphores, mais c'est aussi la puissance qu'il a de faire passer tout un corps, toute une attitude dans justement une phrase, une métaphore. Donc voilà, pour le plaisir d'aller piocher comme ça dans ces classiques, dans ces livres un peu écornés, mais qui malgré tout voilà, nous racontent aussi l'époque dans laquelle on est avec un peu de médiation.
Je suis la seule à être germophobe des livres autour de la table. Quand c'est écorné et qu'on ne sait pas qui l'a touché avant, je ne peux pas le dire.
Ah, ouais. Thibaut, vous allez avoir du courrier, parce que j'ai entendu spoiler alert. Gaines, vous avez parlé de young adult. C'est pour eux, hein, pas pour moi. M'envoyez pas de courrier, s'il vous plaît. Merci.
Je peux défendre Thibaut. Que Thibaut parle de spoiler sur un bouquin de Zola, moi je trouve ça tellement mignon.
Alors, pourquoi lire les classiques? C'est le titre d'un très beau livre d'Italo Calvino. Oui. Pourquoi lire les classiques? L'été, Christina, Italo Calvino qui disait « Les classiques sont ces livres dont on entend toujours dire « Je suis en train de le relire et ça. Jamais, et jamais je suis en train de le lire ».
Mais oui, c'est tellement juste. Alors d'abord parce que l'été on a du temps, hein, donc ça c'est une première raison la plus rationnelle. Et puis c'est vrai, là, cette histoire que je suis en train de relire,
Proust.
En fait, gros menteur,
tout le monde est en train de relire Proust.
Gros menteur, et chaque fois qu'on interviewe une personnalité pour l'été, vous savez, ces fameux marronniers, qu'est-ce que vous faites cet été? Je vais relire Dostoïevski, je vais relire Guerre et Paix. En fait, c'est tous des gros menteurs, ils ne l'ont jamais lu, ils vont essayer peut-être de s'y mettre, mais je ne suis pas sûre, je pense que c'est plutôt polar, moi.
Donc le choix de Thibaut, c'était donc au Bonheur des Dames de Zola. Grégory Cohen, votre choix pour cet été?
Alors moi je vais vous parler d'un livre qui fait du bien et pour recevoir aussi des mails parce que j'aime bien, un livre feel good
qui va le trouver sur ta route Grégory
qui dans un livre qui a été écrit en fait c'est comme si une amie avait écrit ce livre, c'est le livre En forme de Marie Drucker
chez Michel Lafon
chez Lafon qui nous donne des clés simples pour être en forme après 40 ans. On sait qu'il faut bien manger, mais elle va nous dire comment simplement bien manger. Par exemple, éviter l'eau gazeuse. Par exemple, éviter de boire pendant les repas parce qu'il y a un choc des températures qui fait que ça va freiner un petit peu la digestion. Elle va nous dire comment gérer son stress avec la règle des 5 R, je crois, ou des 4 R. Elle va nous expliquer comment avoir un sommeil récupérateur. Enfin bref, c'est le livre d'une amie ou de quelqu'un qu'on aimerait avoir comme amie qui
mais
nous
vous connaissez, elle est raccord entre ce qu'elle...
Elle est exactement voilà. ce qu'elle dit, ce qu'elle propose. Elle a une vie saine et absolument incroyable et elle nous donne vraiment ses conseils.
En forme de Marie Drucker.
Dans les 5 R, il y a Rébéi ou...
Il y a Rébéi, évidemment, c'est le 6e R.
En forme de Marie Drucker, c'est chez Michel Lafon. Et vous, quel livre nous conseillez-vous pour accompagner cet été? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Et je vous propose l'un des titres qui vous fera danser cet été. Keep Moving, par Jungle. que ça fait du bien. Jungle, Keep Moving, le tube de l'été.
Alors pour être dans cette équipe, Bertrand, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie.
Grand bien vous fasse.
Bon, tu sais nager au moins?
Ouais.
Bon, bah c'est bon, t'es dans l'équipe.
Sur France Inter.
10h33 et un grand bien vous fasse loisir concocté par nos amis du vendredi. Et écoutez ça.
National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7.
Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6, on n'est pas bien. 7. Et nous vous proposons donc quelques destinations en France cet été. Et on commence avec vous, mon cher Kevin Clément-Truise. Pourquoi partir dans l'Ain cet été?
Ah bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en bégaye d'émotion. C'est peut-être les petites bulles là dans mon verre. Bref. Pourquoi pas partir dans l'Ain? Effectivement, je vous emmène ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes.
Allez, viens dans l'Ain.
Allez, Maya, viens.
Toute la chronique finira en 1.
Le café qu'elle va le matin, ça laisse.
Ouais, c'est un peu dur.
J'ai l'impression.
Allez, les amis, on y va. On part à quelques kilomètres de Lyon et de Genève. Pourquoi l'Ain? Parce que c'est une pays. Pourquoi? Il y a plein de paysages très différents. Alors, vous avez des lacs, vous avez des étangs, vous avez de la campagne et de la montagne. C'est quand même l'idéal. Ça va être très très dur. Je ne vous regarde plus. Allez hop. Pourquoi l'Ain? Parce que il y a un patrimoine architectural aussi très très riche, très historique.
Pourquoi l'Ain, Gavin?
Alors pourquoi? Parce que je te propose, mon cher Grégory, d'aller dans la Dombe avec tous ces étangs. Tu vas pouvoir y aller avec tes enfants. Et je te conseille d'aller voir le parc des oiseaux à Villars-les-Dombes. Il y a 300 espèces du monde entier. Je te propose aussi d'aller faire un peu de canoë. Pourquoi pas, là, dans les gorges de l'Ain. C'est vraiment l'idée. Il y en a pour tous les goûts. On peut faire des randonnées. Il y a 180 000 hectares de forêt. On peut faire du vélo. Il y a la grande traversée du Jura qui passe par là. À vélo, c'est sympa. Pourquoi l'Ain aussi? Parce qu'on peut y aller été comme hiver. Pensez à vos vacances pour la fin de l'année, c'est parfait. Si vous êtes gourmand, là ça parle à tout le monde, ça parle aussi à toi Grégory. L'Ain a vu naître l'un de tes maîtres, Brillat Savarin, le pionnier de la gastronomie, et puis il y a Georges Blanc à Vonnaz qu'on ira voir pour ses 3 étoiles. C'est dans l'Ain aussi qu'on pourra aller manger le poulet de Bresse. Avec la sauce Nantua aussi, alors pas ensemble, parce que sinon ça va pas aller. Nantua, c'est aussi la sous-préfecture de l'Ain, mais c'est aussi cette sauce béchamel au beurre d'écrevisse, et qui est assez... Alors l'été, bon, c'est un peu dur, mais on va pouvoir arroser tout ça de vin de Bugey, qui est assez effervescent et assez fin, c'est assez bon. Et puis, je peux faire une petite bise à la libraire de Bourg-en-Bresse, Lydie Zanini, la librairie du théâtre, qui est une femme magnifique et que j'embrasse. Et ensuite, on ira voir le monastère royal de Brou, c'est un joyau du gothique flamboyant, et il y a aussi Pérouge, parmi les plus beau village de France.
Et on peut retrouver ces conseils dans le Routard
de l'Ain, tout simplement. Pourquoi l'Ain? Parce que l'Ain.
Bonjour Sylvain Bazin, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La France DGR chez Glénat et cet été vous nous proposez une petite escapade dans les gorges de l'Allier pour se ressourcer, plus précisément sur le GR 470 à travers la Haute-Loire et la Lozère, c'est ça?
Oui, effectivement, je vous emmène sur les rives de l'Allier. Alors l'Allier, on l'oublie assez souvent, ça reste une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe. L'Allier est connu notamment pour ses saumons de l'Atlantique qui viennent se reproduire dans ses eaux. On aura peut-être la chance d'en voir frétiller au bord du chemin. Alors c'est un sentier de 200 km qu'on peut parcourir en une dizaine de jours et que moi je conseille de marcher des gorges jusqu'à la source de l'Allier parce que ça permet comme ça d'avoir un peu un crescendo dans l'intensité du paysage. Alors on va commencer à Brioude, qui est comme une très jolie ville, et puis on croise déjà à nouveau des très beaux villages, Saint-Ilpise, Lavoutchillac, Chanteug, sur des très beaux sites avec des abbayes, des maisons construites vraiment tout au bord de l'eau, et puis des sites naturels déjà qui sont beaux. Les orques basaltiques de Chiléac, il y a un très beau rocher qui domine le petit village de Prades. On est déjà plongé dans un très très beau paysage très préservé, un paysage de rivière à la fois calme et puis aussi un peu intense, un peu dramatique. Après Langeac, on va vraiment s'enfoncer un peu plus dans les gorges avec un paysage de plus en plus spectaculaire, et on rentre ainsi en Lozère où on va parcourir la forêt de Mercoire qui garde un peu le souvenir de la bête du Gévaudan qui a qui a sévi dans ce coin-là, dans les années 1760. Et puis ensuite, on va continuer encore et on va terminer ce GR 470 par le Monde de la Gardie à 1503 mètres d'altitude où on va pouvoir admirer un très beau panorama sur le Gévaudan, sur la Margeride et admirer un peu tout le chemin qu'on a parcouru. On sera là juste à 2 km des sources de l'Allier et on pourra comme ça terminer en beauté, pourquoi pas en buvant une petite gorgée de l'eau qui sort de la source.
Merci beaucoup Sylvain Bazin, vous retrouvera la saison prochaine régulièrement le vendredi, je vous souhaite un très bel été. Julien Bisson, quelle est votre destination? C'est un souvenir d'enfance peut-être?
Eh bien oui, eh bien, c'est drôle parce que j'allais vous parler justement de la vallée de l'Allier, mais alors j'allais pas la faire à pied en remontant la rivière, mais j'allais la faire en descente en canoë, vous partez de Monistrol d'Allier jusqu'à Brioude. Alors c'est évidemment pas exactement les mêmes expériences, les mêmes sensations que quand on remonte à pied le long du GR. Il y a quelques rapides qu'il faut traverser, mais c'est pas très méchant. On peut réussir à le faire avec, même si on n'est pas un grand expert du canoë, descendre en effet jusqu'à Langeac, Chillac, la voûte Chillac, son village fortifié et ses maisons à flanc de falaise. Et puis en fait, même si vous n'aimez pas trop le canoë, dans la Haute-Loire, il y a beaucoup d'autres endroits à aller visiter. L'abbaye de la Chaise-Dieu, le Puy-en-Velay qui est célèbre pour ses aiguilles avec ses églises en haut des aiguilles. Célèbre pour sa lentille, évidemment, Grégory, et puis célèbre pour sa dentelle, la dentelle du puits. Et alors, petite confidence, quand j'étais môme, j'ai même pris des leçons pour apprendre la dentelle au fuseau. Je vous montrerai mes créations à lui un jour si vous êtes gentil. Oui. Simplement, je peux vous dire que à l'époque, je m'en vantais pas trop auprès des copains de l'école. C'était pas exactement ce qu'on allait raconter en premier quand on disait qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances. Mais voilà, la Haute-Loire, c'est l'une des plus belles régions, un des plus beaux départements de France, donc je réitère après Sébastien Mazin ce conseil.
Merci Julien. Maya, vous nous amenez au mur de la peste dans le Luberon, mais il paraît qu'on dit Luberon, Christina.
On dit le Luberon, voilà. Vous allez vous faire assassiner. Moi je n'y arrive pas, mais bon, on dit Luberon.
On dit Luberon, et c'était pour éviter en fait toutes ces destinations qu'il y a dans cette région où tout le monde va, qui sont prises d'assaut par les touristes. Donc à mon avis, il faut oublier Gordes, Roussillon, la Fontaine de Vaucluse, et aller dans tous les petits villages autour qui sont tout aussi sympas, qui des fois sont tout aussi jolis, et où il y a quand même beaucoup moins de monde, et mieux encore, aller entre ces villages. C'est le cas du Mur de la Peste, donc ça fait des grandes balades. Et puis on mange bien, faut aller, pareil, éviter les restaurants où vous allez payer une fortune pour de la fausse nourriture provençale. Allez au marché, achetez une bonne huile d'olive, faites vos trucs tout seul. Et voilà, profitez du Vaucluse différemment.
Le Mur de la Peste, c'est la destination d'été de Maya. Thibaut, petite escapade dans le vallon de Marcillac, en Aveyron.
Oui, c'est dans le nord Aveyron, c'est pas très loin de Rodez. C'est un petit vallon dans lequel il y a notamment une AOC de vin à partir d'un cépage, le Mansois. C'est extrêmement calme et tranquille et magnifique. Donc il faut aimer se promener entre vallon et causse. Alors dans le vallon, les villages sont rouges parce que la pierre, c'est celle du rougier qui est nourrie un peu du fer et qui lui donne cette couleur particulière. Mais quand on s'élève un petit peu et qu'on passe sur les causses, là on a la pierre de causse qui est très claire. Et rien que cette petite différence est assez amusante, intrigante. On peut s'y promener à pied, on peut aussi un peu plus loin, en sortant de ce vallon, découvrir aussi un site magnifique qui est le site de Conques, qui est un grand site sur le chemin notamment de Compostelle. Il y a une très belle balade à faire aussi dans les gorges de l'Aveyron. Là aussi c'est tranquille, vous pouvez marcher toute une après-midi sans croiser absolument personne. Et puis c'est quand même un coin où on mange divinement bien, avec des bons produits, du fromage à tomber et qui est si peu cher aussi sur place qu'on peut en profiter. Bref, voilà, je vous conseille le vallon de Marcillac, le Nord Aveyron, vous serez tranquille.
Escapade dans le vallon de Marcillac, c'est le conseil de Thibaut. Alors Grégory Cohen, à l'opposé de l'Aveyron, vous chérissez Saint-Tropez.
Saint-Tropez, ça va, ouais.
En réalité, il faut pas être en fait comme ça, Guillemette. Il y a plusieurs destinations dans une destination, et c'est pas Gavin qui va me contredire là-dessus. Moi, mon Saint-Tropez à moi, c'est un Saint-Tropez du matin. Je me réveille à 6h du matin. Je vais à la criée sur le marché aux poissons. Ensuite, je pars faire de la plongée sous-marine. Je me retrouve après. sur la terrasse d'un célèbre café. Et puis Sénéquier, et je vois passer des copains. On prend un petit café et puis on remonte. C'est Ramatuelle, c'est Cogolin, c'est le Var, c'est un peu plus loin Sainte-Maxime.
J'ai
c'est
une
vraiment.
Question. Est-ce que tu portes des jeans blancs serrés avec des strass sur les faces?
Alors voilà, on est sur un fantasme de Maya Mazorette. J'ai l'impression que, eh bien, non.
Surtout, est-ce que tu portes la chemise comme tu la portes en ce moment? On voit la moitié de ta poitrine.
Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que c'est la dernière émission. Sinon, je propose aussi autre chose. Du 9 au 11 juillet, je serai au festival d'Agen sur Qu'est-ce qu'on mange, festival de la gastronomie et de l'alimentation. Si vous êtes du côté d'Agen, venez nous voir, ça va être super.
Venez grossir avec Grégory cet été.
Non, je me moque Grégory, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup Ramatuelle et aller aussi visiter les petits vignobles là derrière et rapporter plein de rosés pour le reste de votre année. C'est vraiment, oui, c'est merveilleux.
Et vous, Guillemette, c'est Cannes ?
Alors, c'est Cannes, mais un peu obligé, donc je pars la semaine prochaine.
Pas loin.
Dans un mix vacances et travail. Et après, je pars, à l'inverse de vous, enfin pas à l'inverse de vous, mais je pars à Uzès. Mais parce que, enfin, je sais pas si vous le faites comme ça, mais moi, il peut m'arriver de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant les vacances ? Je ne sais pas, je vais d'abord regarder les maisons qui sont dispo. Ou les copains qui me reçoivent. Et à partir de là, ça tombe sur une région ou une autre. Et c'est le plaisir de découvrir une région qu'on n'avait pas forcément. Donc là, je vais dans le Gard, mais parce qu'il y a une dame très gentille qui m'a loué pas cher sa petite maison. Donc je vais dans le Gard. Ah ben c'est mignon. Alors il y a Gavin qui a apporté Languedoc et Roussillon.
Routard.
Et pour le Routard, ben je vais recommencer, mais je suis excitée d'avance.
Il faudra que tu ailles sur la place aux herbes, ma chère Guillemette. Tu pourras aller prendre une petite moresque, tu penseras à nous. Tu graviras la tour Bermonde. Il y a 135 marches, ce sera sympa. Et puis surtout, il faut que tu ailles voir, il y a l'usine de bonbons Haribo dans les environs d'Uzès. C'est quand même assez sympa.
Bonjour, mode de Coyer Simon.
Bonjour.
Alors, vous publiez Voir la France loin de la foule chez Hachette. On vous avait reçu la semaine dernière. Alors, cet été, mes chères falaises d'Étretat seront pleines comme neuf grâce à la folie ou à cause, je ne sais pas, Arsène Lupin. Quel est le plan B si on veut éviter la foule à Étretat? On part aux Petites Dalles, c'est ça, sur la côte d'Albâtre. C'est à l'origine un village de pêcheurs entre terre et mer et qui a été transformé au 19e siècle en station balnéaire. Les Petites Dalles.
Oui, voilà, exactement, parce que, en fait, la côte d'Albâtre fait 130 kilomètres, donc c'est vrai qu'on pense souvent aux falaises d'Étretat, et notamment si on est fan d'Arsène Lupin, mais en fait, il y a plein d'autres spots à découvrir, et notamment, donc, les Petites Dalles, donc, qui sont à une trentaine de kilomètres au nord d'Étretat, donc, comme vous l'avez dit, un ancien village de pêcheurs qui est niché entre les falaises au creux de la Valleuse. Et sur la plage, on peut donc découvrir ces magnifiques falaises de craie blanche qui sont vraiment, vraiment spectaculaires. Claude Monet, d'ailleurs, les connaissait bien parce que son frère avait une villa aux Petites Dalles, donc il a souvent séjourné et il nous a laissé quelques toiles des falaises des Petites Dalles. Et puis ensuite, bah, pour prendre de la hauteur, on peut aussi découvrir les falaises depuis le sentier de randonnée, le GR21, voilà, qui offre un parcours un peu plus en hauteur pour pouvoir voir, apprécier la mer, les pâturages. Et puis dans le livre, on vous souffle d'ailleurs l'adresse d'une maison d'hôte qui est perchée là-haut, tout en haut des falaises, si on a envie de se faire une nuit avec une vue un peu magique sur toutes les falaises et la Manche.
Et merci beaucoup pour ce plan B d'Étretat, les Petites Dalles. C'était votre conseil, Maude Coyer-Simon. Merci beaucoup. Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, cher Ali, aujourd'hui, une petite envie de proposer une petite philosophie, donc, de cette émission que vous connaissez, grand bien vous fasse. Si on peut philosopher sur tous les aspects de notre vie quotidienne, comme moi j'essaye de le faire chaque semaine avec vous dans cette émission depuis 5 ans, alors on doit aussi pouvoir réfléchir sur cette réalité du quotidien qui est devenue cette émission. Qu'est-ce que donc cette émission au juste? Quel est son principe? Quelle est son éthique, sa politique, voire peut-être sa métaphysique même? Un peu de réflexivité, ça fait jamais de mal. On sait depuis Descartes, hein, et son fameux « je pense, donc je suis ». Alors, qu'en est-il pour cette émission? Eh bien, grand bien vous fasse, c'est d'abord une promesse. C'est ce que vous répétez à longueur d'émission, la vie quotidienne, mode d'emploi.
Donc d'emblée, une première invitation philosophique à porter son attention sur ce quotidien que nous vivons sans y prendre garde, puisqu'il n'a rien d'extraordinaire. Chaque émission est l'occasion d'éclairer ce quotidien, d'examiner ce que nous n'avions pas pris le temps de réfléchir, et qui constitue pourtant la matière première de notre vie, hein, de vivre donc davantage en connaissance de cause, et de retrouver ce que disait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors pour examiner nos vies, grand bien vous fasse, c'est aussi la plus large diversité de sujets. On y parle aussi bien de la santé de notre corps que de celle de notre esprit, de la vie de famille, de la vie amoureuse, des changements qui traversent la société, que des envies de voyage, de lecture, de cuisine, de la chemise de Grégory Cohen. On se souvient un jour de ce que nous devons à Napoléon, un autre jour on s'intéresse aux routiers qui sillonnent nos routes, un autre jour encore c'est l'intestin ou le cerveau qui est à l'affiche, et un autre jour on se demande aussi comment aider les enfants hyperactifs ou comment le philosophe Spinoza peut nous aider à mieux vivre. Bref, pour cette émission, tout est important, il n'y a rien qui ne soit digne d'intérêt. Parce que l'enjeu est toujours le même, faire en sorte que nous puissions vivre mieux. Ça me fait penser à cette formule du poète latin Terence reprise par Montaigne. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est un des principes de l'humanisme de la Renaissance et de cette manière, par ce souci de l'humanité dont témoigne cette diversité de sujets, il me semble que Grand Bien Vous Fasse est une émission humaniste. Et puis cette émission, chaque jour, elle examine tous ces sujets à travers des conversations. Dans une époque où il devient de plus en plus difficile de converser sans s'affronter, sans verser dans le clash ou la seule expression de soi, il y a dans Grand Bien Vous Fasse un souci de la conversation équilibrée avec les invités comme avec les auditeurs et qui fait la part belle donc à l'intelligence collective et à la rencontre. La parole ne sert pas à débattre, ici elle sert à partager des connaissances, des émotions, des conseils avec précision et bienveillance. L'éthique de la conversation, c'est laisser à chacun la possibilité de faire entendre sa voix et donner à chacun la possibilité d'entendre la voix de l'autre. Cette fois, ça me fait penser à cet art de la conversation que l'honnête homme du XVIIe siècle se devait de maîtriser. L'honnêteté ici rime avec curiosité, courtoisie et modération. Et puis enfin, pour terminer, si on prend encore un peu de recul, d'un point de vue métaphysique cette fois, cette émission, par sa promesse, son ton, ses sujets et ses conversations, nous apprend chaque jour de la semaine que nous n'avons jamais fini d'être nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours des choses à apprendre, que le réel ordinaire de nos vies est inépuisable. En écoutant les autres aujourd'hui, eh bien demain, nous serons un peu différents de ce que nous étions hier.
Merci beaucoup Thibaut de Samory. Je suis très touché. Touché par votre chronique, vraiment.
Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'était n'importe quoi.
Et mon cher Thibaut, ça fait maintenant 11 ans qu'on se côtoie et je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission à la rentrée le vendredi.
Avec
tout de suite, le grand mezzé de Grand Bien Vous Fasse, chacun apporte son manger. Vous connaissez cette expression, apporter son manger pour un grand pique-nique estival.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Allez, dans ce grand mezzé, dans ce pique-nique, c'est vous qui apportez la salade niçoise, Guillemette
Odissino.
La vraie salade niçoise.
Oui, alors bon, c'est vrai que ça c'est vraiment un problème. Moi, en tant que niçoise, quand j'ai débarqué à Paris et que j'ai commandé des salades niçoises et qu'à l'intérieur, il y avait du riz, des pommes de terre, des haricots verts...
Du
foie gras, des morceaux de steak. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, revenons justement à l'origine. La salade niçoise, la vraie, c'est une salade de pauvres. C'est une salade où il y a normalement, alors vraiment les ingrédients les plus minimalistes au début, c'est de la tomate, des cébettes, c'est-à-dire des tout petits oignons, et éventuellement des petits bouts de poivron. Et vraiment, si on a mis de côté pendant l'hiver des anchois, quelques anchois dessalés. Et normalement, c'est tout. Après, on a le droit de rajouter tout de même... On a le droit de rajouter des petits artichauts violets, des tout petits artichauts violets. On a le droit de rajouter des œufs durs, les œufs durs étant la seule composante cuite de cette salade. Il n'y a rien d'autre qui est cuit à l'intérieur. Et on a aussi peut-être le droit de mettre des radis. On a le droit surtout, mon Dieu, on est obligé de mettre des fèvettes. En tous les cas, il faut considérer la salade niçoise comme une salade de saison. C'est-à-dire, à partir du moment où certains ingrédients, comme les fèvettes, ne sont plus de saison, on ne fait plus de salade niçoise, on cesse et on en fera une l'été prochain.
Greg Cohen.
Et là, Thibaut, je vais vous contredire, c'est le clash.
C'est le clash. Sur une salade niçoise, quand même.
Ça ne va pas aller du tout. En fait, la gastronomie, c'est un patrimoine vivant. Ça veut dire qu'on n'a pas de droit, on n'a pas d'obligation, on fait ce que l'on veut, selon ses goûts, et on peut transformer la salade niçoise. Par exemple, la salade niçoise de Guimette, c'est la salade niçoise de Guimette. Celle de Maya sera différente. Celle de Thibault aussi.
Non, c'est pas la salade niçoise de Guimette, c'est la salade niçoise de Nice.
Excuse-moi. Non, il n'y a pas d'appellation d'origine là-dessus.
Allez, non, mais c'est patrimoine et créativité, c'est ça qui est drôle.
Christina Pelédouel, vous amenez les aubergines à la parmigiana.
Oh, j'adore ça. C'est un plat extraordinaire. Alors, pas très, très régime, hein, je tiens à vous le dire. Il y a beaucoup d'huile quand même. Grégory, je ne sais pas si tu me suis sur ce terrain-là. Mais ouais, c'est merveilleux. Alors, aubergine, tomate, mozzarella. Et d'accord,
ouais,
Grégory, tu valides.
Moi, mozzarella. Je brûle un peu la peau des aubergines, voilà, pour donner un petit côté
moi,
caramélisé.
Je l'ai cuit avant,
et
ouais,
je rajoute aussi des tomates séchées dedans.
Voilà, des tomates. Le tout au four, en couche au four. Et puis voilà, c'est paradisiaque, quoi, la parmigiana.
Greg, vous apportez un assado.
Parfait. J'apporte en fait, moi, l'assado, c'est une cuisson lente, c'est un barbecue argentin. D'ailleurs, on va retrouver certaines recettes dans ton magazine.
Dans
le prochain Routard Magazine.
C'est studio. Ben
ouais. Voilà. Et en fait, je vais proposer une sauce, la sauce chimichurri. C'est une sauce qui est assez drôle parce qu'en fait, cette sauce, en fait, elle s'appelle la sauce Jimmy McCurry. Mm-hmm. Sauf qu'en argentin, les Argentins, le J, le prononce le ch. Et donc Jimmy McCurry est devenu chimichurri. Cette sauce là, elle est exceptionnelle. C'est de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, jus de citron, poivron vert, piment vert, de l'ail, tomate, échalote, persil frais, coriandre, estragon, origan, thym, tout ça frais, au pilon. Et on se retrouve avec une sauce exceptionnelle. Je conseille d'utiliser un pilon ou d'acheter un pilon si vous n'en avez pas. Vous verrez que les sauces, ainsi que les graines, ainsi que toutes les aromates seront décuplées.
Gavins, vous apportez le dessert?
Oui, j'avais le dessert, c'est très très summer body, je vais encore me faire tuer par tout le monde, c'est pour le corps de l'été, c'est la tergoule. Je suis normand, c'est quoi? C'est un riz au lait qui fermente pendant des heures, presque 6 heures.
Fermente, c'est le mot?
Ouais, c'est un riz au lait qui fermente
très
pas
doucement,
réellement
pendant 6 heures au four avec de la cannelle, et quand on vient craquer la croûte là toute dure, c'est un régal, c'est délicieux. Bon, c'est pas très léger.
Julien, quelques mots?
Moi, je voudrais parler du poulet à la bière parce qu'il n'y a pas de raison que Maya soit la seule à évoquer les croupions et ce qu'on peut y introduire. Puisque le principe du poulet à la bière, c'est d'introduire une canette de bière dans le croupion du poulet, une canette de bière qu'on aura vidé un peu la moitié de la bière. On fait cuire à cuisson lente pendant 1h30 à 2h. C'est très bon, ça attendrit les chairs, c'est formidable. Et puis en plus, ça attire la curiosité de vos
copains. Mais quelle belle transition, Julien Bisson, avec la chronique sexe de Maya Mazorette. Le menu donc de votre chronique, Maya.
Je propose de tout mettre en pause, même la sexualité, parce que j'ai très envie de me faire des ennemis pour cette dernière chronique. Et pourtant, la pause sexuelle fait partie de notre héritage. Au Moyen-Âge, les rapports sexuels sont interdits hors mariage, évidemment, mais ils sont aussi interdits pendant la journée, lors du jour de Seigneur, le dimanche, le jour de la mort de Jésus, vendredi, donc pas aujourd'hui, pas non plus le samedi, parce que c'est la veille de dimanche, pas non plus la veille des mercredis. Abstinence aussi pendant les trois carèmes, donc les 40 jours avant Pâques, avant Noël et avant la Sainte-Croix de septembre. Pas de sexe pendant les menstruations, ni pendant les trois derniers mois de grossesse, ni 40 jours après l'accouchement, ni en général pendant l'allaitement. Pour bien se préparer au couple, on recommande aussi de ne pas avoir de rapport les trois premières nuits du mariage, car il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme, écrivait Saint Paul qui détestait les femmes.
Alors ton conseil, Maya, c'est donc de nous renvoyer au Moyen-Âge?
Non, mais quand même, ça devrait nous interroger. On a une sexualité qui n'a plus de temps mort. Elle appartient à la fois au temps exceptionnel des loisirs et au temps habituel du quotidien. Elle appartient à la fois au devoir conjugal et à la félicité conjugale. Du coup, on est sous pression tout le temps. Il faudrait jamais s'arrêter. Et si on le fait, ce serait forcément un échec personnel, un échec de couple. Et on sait que ça marche pas, ça. Parce que c'est l'absence qui crée le désir. Sans absence, on banalise la sexualité et on peut même développer une forme d'indifférence. Si c'est toujours là, si le plaisir est toujours disponible, si la poitrine de Grégory Cohen est toujours visible, alors ça n'a plus de valeur.
Alors il faudrait s'inventer des limites, Maya.
En tout cas, on peut se rappeler que la tempérance est une option, qu'elle n'est pas forcément une marque de pruderie. Au contraire, de manière pratique, il y a des initiatives qui permettent de souffler un peu et qui ne sont ni le célibat, ni la cage de chasteté, même si c'est possible. En ligne, il y a des groupes d'entraide pour arrêter la masturbation ou pour atteindre, par exemple, le Graal d'un mois sans rapport sexuel. Je sens que je ne vais pas convaincre grand monde aujourd'hui avec cette possibilité, mais je pense quand même que ça vaut le coup de partir en vacances avec une petite question digne de la chronique philo de Thibault. Ne serions-nous pas en train de confondre pouvoir coucher et devoir coucher, si on peut? Est-ce qu'on doit? Bonne abstinence et bon été à toutes et tous.
Et c'était un plaisir, Maya, de t'accueillir dans la famille Grand Bien Vous Fasse. Et tu seras avec nous à nouveau le vendredi. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Une année où nous avons essayé de vous aider au mieux en cette période difficile. J'aimerais remercier ma formidable équipe féminine, Alexia Rivière, Claire Destacan, Julia Macarez, Stéphanie Texier, mais également Stéphanie Valois. Des femmes puissantes sans qui cette émission n'aurait pas du tout la même saveur. Merci également à notre stagiaire belge Céline Collinet, encore une excellente stagiaire, la plus drôle de l'équipe, bosseuse, consciencieuse, extrêmement sympathique, et j'espère que la RTBF t'embauchera. Merci à tous les chroniqueurs et à l'excellente programmation musicale de Muriel Pérez. Merci à tous les techniciens qui se sont succédés. Merci au duo de choc ultra sympa, Kevin Pelot et Pauline Laverdure. Merci pour le Prosecco. Lundi, vous retrouverez la nouvelle émission de Charles Pépin. Il est pas là pour rien dans le studio.
Attendez, deux secondes. Ouais. 1, 2, 3, merci Ali.
Et Charles Pépin, sous le soleil de Platon. Moi, j'attends ça avec impatience. Ce sera à 10h. Quel est le programme de cette émission très alléchante?
Alors, c'est des grands entretiens d'été avec des personnalités très différentes. La première semaine, par exemple, il y a d'abord Raphaël, Olivia Ruiz, Lionel Nakache, Fabrice Midal, Arthur Ashe. Donc, il y a beaucoup d'invités différents. Et à chaque fois, j'ai pensé, pour l'invité, une question de philosophie qui le concerne et qui résonne par rapport à son histoire. Par exemple, pour Fanny Ardant, le sujet, c'est « A-t-on raison de se révolter ?» Pour André Manoukian, c'est « Pourquoi la musique nous fait-elle tant de bien ?» Et en fait, je ruse un peu. Au début, je me présente avec une casquette de philosophe et finalement, j'y vais dans l'intime et j'arrache des confessions.
Sous le soleil de Platon, que vous pourrez écouter dès lundi à 10h. Bel été, mon cher Charles. Et pour ma part, je vous retrouve le 30 août pour une émission santé consacrée aux nerfs vagues. Et oui, absolument fondamentale pour notre bien-être et pour prévenir certaines pathologies. Ça fait rire, guillemette. Bel été à tous. Bel été à tous.
Bel été.
Merci à tous. France Inter.